Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans le cadre de nos lectures en liberté, nous revenons à ce roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro. À cause de la grève des funiculaires et des métrolébus, il roulait dans les rues une quantité accrue de véhicules divers. Cependant que le long des trottoirs, des piétons ou des piétonnes, fatigués ou impatients, faisaient de l'autostop, fondant le principe de leur réussite sur la solidarité inusuelle que devaient provoquer chez les possédants les difficultés de la situation. Trouscaillon se plaça lui aussi sur le bord de la chaussée et sortant un sifflet de sa poche, il en tira quelques sons déchirants. Les voitures qui passaient poursuivirent leur chemin. Des cyclistes poussèrent des cris joyeux et s'en allèrent insouciants vers leur destin. Les deux roues motorisées accrurent la décibélité de leur vacarme et ne s'arrêtèrent point. D'ailleurs, ce n'était pas à eux que le gendarme Trouscaillon s'adressait. Il y eut un blanc. Un encombrement radical devait sans doute geler quelque part toute circulation. Puis une conduite intérieure, isolée mais bien banale, fit son apparition. Trouscaillon roucoula. Cette fois, le véhicule freina.
Bah, « qu'est-ce qu'il y a ?»
demanda le chauffeur, agressivement, à Trouscaillon qui s'approchait.
Bah, « j'ai rien fait de mal. Je connais le code de la route, moi. Jamais de contredanse. Et j'ai mes papiers, alors quoi ?
Vous feriez mieux d'aller faire marcher le métro que de venir emmerder les bons citoyens. Vous n'êtes pas content avec ça ?
Ben, qu'est-ce qu'il vous faut ?»
Il s'en va.
« Bravo, Trouscaillon !» crie de loin Zazie en prenant un air très sérieux.
« Faut pas l'humilier comme ça, dit la veuve Mouaque, ça va lui enlever ses moyens. »«
Ben, je l'avais bien deviné que c'était un veau. »«
Ben, vous ne trouvez pas qu'il est beau garçon ?»«
Tout à l'heure, dit Zazie sévèrement, c'est mon oncle que vous trouviez à votre goût. Il vous les faut tous. »
Une roulade de son aigu attira de nouveau leur attention sur les exploits de Trouscaillon. Ils étaient minimes. L'encombrement avait dû se débouchonner quelque part, une dégoulinade de véhicules s'écoulait lentement devant le flicman. Mais son petit sifflet ne semblait pas impressionner qui que ce soit. Puis de nouveau le flot se raréfia. Une coagulation ayant dû de nouveau se produire au lieu X. Une conduite intérieure bien banale fit son apparition. Trouscaillon roucoula. Le véhicule s'arrêta.
Ben, « qu'est-ce qu'il y a ?»
demanda le conducteur agressivement à Trouscaillon qui s'approchait. « J'ai rien fait de mal, j'ai mon permis de conduire, moi jamais de contredanse et j'ai mes papiers. Alors quoi ? Vous feriez mieux d'aller marcher sur le métro que de venir emmerder des bons citoyens. Vous n'êtes pas content avec ça ? Eh bien, allez vous faire voir par les Marocains. »
« Oh !» fit Trouscaillon choqué.
Mais le type est parti.
« Bravo, Trouscaillon !» crie Zazie au comble de l'enthousiasme dans lequel elle nage avec ravissement.
« Il me plaît de plus en plus, » dit la veuve Mouaque à mi-voix. « Elle est complètement dingue !» dit Zazie de même. Trouscaillon, emmerdé, se mettait à douter de la vertu de l'uniforme et de son sifflet. Il était en train de secouer le dit objet pour l'assécher de toute la salive qu'il y avait déversée lorsqu'une conduite intérieure bien banale vint d'elle-même se ranger devant lui. Une tête dépassa de la carrosserie et prononça les mots d'espoir suivants.
« Pardon, monsieur l'agent, vous ne pourriez pas m'indiquer le chemin le plus court pour me rendre à la Sainte-Chapelle, ce joyau de l'art gothique ?»«
Eh bien, répondit automatiquement Trouscaillon, voilà. Faut d'abord prendre à gauche, et puis ensuite à droite. » Et puis, lorsque vous serez arrivé sur une place aux dimensions réduites, vous vous engagez dans la troisième rue à droite, ensuite dans la deuxième à gauche, encore un peu à droite, trois fois sur la gauche, et enfin droit devant vous pendant 55 mètres. Naturellement, dans tout ça, il y aura des sens interdits, ce qui vous simplifiera pas le boulot.
Bah, « Je vais jamais y arriver, » dit le conducteur. « Moi qui suis venu de Saint-Montron exprès pour ça. »
Ben, « Faut pas vous décourager, dit Trouscaillon, une supposition que je vous y conduise.
Ben, vous devez avoir autre chose à faire.
Croyez pas ça, je suis libre comme l'air.
Ce seulement, si c'était un effet de votre bonté de véhiculer aussi ces deux personnages.
Moi je m'en fous pourvu que j'arrive avant l'heure ou que c'est ça se ferme.
Ma parole, dit la veuve de loin, on dirait qu'il a fini par réquisitionner un voiturin.
Il va m'épater, dit Zazie objectivement.
Trouscaillon fit un petit temps de galop dans leur direction et leur dit sans élégance
« Amenez-vous en vitesse, le type vous embarque !»«
Allons, dit la veuve moque, suce au guide-nappeur !»«
Bah tiens, je les avais oubliés ceux-là, dit Trouscaillon. »
« Faut peut-être mieux pas en parler à votre bonhomme, » dit la veuve diplomatiquement.
« Alors comme ça, demanda Zazie, il nous emmène à la chapelle en question.
« Mais grouillez-vous donc !»
Prenant Zazie chacun par un bras, Trouscaillon et la veuve Mouaque foncèrent vers la conduite intérieure bien banale dans laquelle ils la jetèrent.
« Mais j'aime pas qu'on me traite comme ça !» hurlait Zazie, folle de rage.
« Vous avez l'air de quidnappeur, dit le sanctimontronais. Plaisamment.
Bah, c'est une simple apparence, dit Trouscaillon, s'asseyant à côté de lui. Vous pouvez y aller si vous voulez arriver avant la fermeture. On démarre. Pour aider le mouvement, Trouscaillon se penchait au dehors et sifflait avec frénésie. Ça avait tout de même un certain effet. Le provincial était ravi.
Maintenant, faut prendre à gauche, ordonna Trouscaillon.
Zazie boudait.
« Alors, lui dit la veuve Mouaque hypocritement, tu n'es pas contente de revoir ton tonton ?»«
Tonton, mon cul, » dit Zazie.
« Tiens, » dit le conducteur, « mais c'est la fille de Jeanne Lalochère. Je l'avais pas reconnue déguisée en garçon. »«
Vous la connaissez ?» demanda la veuve Mouaque avec indifférence.
« Je veux, » dit le type.
Et il se retourna pour compléter l'identification, juste le temps de rentrer dans la voiture qui le précédait.
« Merde !» dit Trouscaillon.
« Bah, c'est bien elle !» dit le sanctimontronais.
Je vous connais pas, moi, dit Zazie.
Alors quoi, on sait plus conduire, dit l'embouti, descendu de son siège pour venir échanger quelques injures bourdonnantes avec son emboutisseur.
Ah, ça m'étonne pas, un provincial. Au lieu de venir encombrer les rues de Paris, vous feriez mieux d'aller garder vos oies chez vous.
Mais monsieur, dit la veuve Mouaque, vous nous retardez avec vos propos morigénateurs. Nous sommes en mission commandée, nous. Nous allons délivrer un kidnappé.
Quoi, quoi ? Dit le sanctimontronais. Moi, je marche plus. Je suis pas venu à Paris pour jouer au cow-boy.
Et vous ? Dit l'autre conducteur en s'adressant à Trouscaillon. Qu'est-ce que vous attendez pour dresser un constat ?
Vous en faites pas, lui répondit Trouscaillon. C'est constaté, vous pouvez me faire confiance.
Et il imitait le flic qui griffonne des trucs sur un vieil écorné carnet.
« Vous avez votre carte grise ?»
Trouscaillon fit semblant de l'examiner.
« Pas de passeport diplomatique ?»«
Bah ça ira comme ça, » dit la Trouscaille. « Vous pouvez vous tirer. »
L'embouti, songeur, remonta dans sa voiture et reprit sa course. Mais le sanctimontronais, lui, ne bougeait pas.
« Eh bien, » dit la veuve Mouaque, « qu'est-ce que vous attendez ?»
Derrière, des claquesons râlaient.
« Mais puisque je vous dis que je ne peux pas jouer au cow-boy, une mauvaise balle est vite attrapée.
Bah, »« Dans mon bled, dit Zazie, on est moins trouillard. »«
Oh, toi, dit le type, je te connais. Tu ferais se battre des montagnes.
Bah, »« C'est vache, ça, dit Zazie. Pourquoi que vous essayez de me faire cette réputation dégueulasse ?»
Les klaxons hurlaient de plus en plus fort, un vrai orage.
« Mais démarrez donc !» cria Trouscaillon.
Ben, je tiens à ma peau, dit le Sancti-Montronnet.
Vous en faites pas, dit la veuve Mouac, toujours diplomate, il n'y a pas de danger, juste une blague.
Le type se retourna pour voir d'une façon un peu plus détaillée l'allure de cette rombière. Cet examen l'incita à la confiance.
Vous me le promettez ? Qu'il demanda.
Ben, puisque je vous le dis.
Ben, c'est pas une histoire politique avec toutes sortes de conséquences emmerdatoires.
Mais non, c'est juste une blague, je vous assure.
Alors, allons-y, dit le type, quand même pas absolument rassuré.
Puisque vous dites que vous me connaissez, dit Zazie, ma maman, vous l'auriez pas vue par hasard, elle est à Paris, elle aussi.
Ils avaient tout juste parcouru une distance de quelques toises que 4 heures sonnèrent au clocher d'une église voisine, église de style néoclassique d'ailleurs.
C'est foutu, dit le Sancti-Montronnet.
Il freina de nouveau, ce qui provoqua derrière lui une nouvelle explosion d'avertisseurs sonores.
Oh, plus la peine, qu'il ajouta, ça va être fermé maintenant.
Raison de plus pour vous presser, dit la veuve Mouac, raisonnable et stratégique. Notre kidnappé, on va plus pouvoir le retrouver.
Je m'en fous, dit le type.
Mais sa claque sonnait tellement fort derrière lui qu'il ne put s'empêcher de se remettre en route, poussé en quelque sorte devant lui par les vibrations de l'air agité, par l'irritation unanime d'estopé.
Allez, dit Trouscaillon, faites pas la mauvaise tête.
Maintenant, on est presque arrivé. Vous pourrez dire comme ça aux gens de votre pays que si vous n'avez pas pu la voir, la Sainte-Chapelle, du moins, vous en avez pas été loin.
Tandis qu'en restant ici...
Ben, c'est qu'il cause pas mal quand il veut, remarqua Zazie impartialement, à propos du discours du flicman.
De plus en plus il me plaît, murmura la veuve Mouac, à voix tellement basse que personne ne l'entendit.
Et ma maman, demanda à nouveau Zazie au type, puisque vous dites que vous me connaissez, vous l'auriez pas vu par hasard?
Ça alors, dit le Sancti-Montronnet, je manque vraiment de peau. Avec toutes ces bagnoles, faut que vous ayez choisi justement la mienne.
On l'a pas fait exprès, dit Trouscaillon. Moi, par exemple, quand je suis dans une ville que je connais pas, ça m'arrive aussi de demander mon chemin.
Oui, mais, dit le Sancti-Montronnet, et la Sainte-Chapelle?
Ça, faut avouer, dit Trouscaillon, qui dans cette simple ellipse utilisait hyperboliquement le cercle vicieux de la parabole.
Bon. Dit le Sancti-Montronnet. J'y vais.
Sus au guide-nappeur ! Cria la veuve Mouac.
Et Trouscaillon, sortant sa tête hors carrosserie, sifflait pour écarter les importuns. On avançait médiocrement vite.
Tout ça, dit Zazie, c'est misérable. Moi, je n'aime que le métro.
Ben, je n'y ai jamais mis les pieds, dit la veuve.
Ben, vous êtes un rien snob, dit Zazie.
Du moment que j'en ai les moyens. N'empêche que tout à l'heure, vous n'étiez pas prête à raquer un rond pour un taxi.
Bah, puisque c'était inutile, la preuve.
« Ça roule !» dit Trouscaillon en se retournant vers les passagères pour quêter une approbation.
« Foui !» dit la veuve Mouac en extase.
« Faudrait pas charrier, » dit Zazie. « Quand on sera arrivé, le tonton se sera barré depuis belle lurette.
Bah, »« Je fais de mon mieux !» dit le Sancti-Montronnet qui, changeant de voie de garage, s'exclama « Ah, si on avait le métro à Saint-Montron, n'est-ce pas, petite ?»
Ça alors, dit Zazie, c'est le genre de déconnance qui m'écœure particulièrement, comme s'il pouvait y avoir le métro dans notre bled.
À quoi bon dormir ? À quoi bon rêver ? À quoi bon dormir ? Et si vient le réveil ? À quoi bon rêver ? Si vient le soleil, à quoi bon dormir? À quoi bon rêver? À quoi bon rêver de nid d'oiseau? Si l'oiseau s'envole et que la nuit tombe, si le pigeon meurt et si meurt la colombe, à quoi bon rêver de nid d'oiseaux? Les jours et les nuits tournent dans ma tête, les choses. Laissez-moi dormir, laissez-moi rêver. Laissez-moi dormir, dormir cette vie. Laissez-moi rêver, rêver d'autres vies. Laissez-moi dormir, laissez-moi rêver. Les jours et les nuits tournent dans ma tête. Les jours et les nuits déchirent.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour à la lecture après le moment musical, Zazie dans le métro.
Ça viendra un jour, dit le type, avec le progrès, il y aura le métro partout. Ce sera le même ultra chouette. Le métro et l'hélicoptère, voilà l'avenir. Pour ce qui est des transports urbains, on prend le métro pour aller à Marseille et on revient par hélicoptère.
Mais pourquoi pas le contraire ? Demanda la veuve Mouac, dont la passion naissante n'avait pas encore entièrement obnubilé le cartésianisme natif.
« Pourquoi pas le contraire ?» dit le type, anaphoriquement, « à cause de la vitesse du vent. »
Il se tourne un peu vers l'arrière pour apprécier les effets de cette astuce majeure, ce qui l'entraîne à rentrer de l'avant dans un car stationné en deuxième position. On était arrivé. En effet, Fédor Balanovitch fit son apparition et se mit à débiter le discours type.
« Alors quoi, on ne sait plus conduire ? Ah ben ça m'étonne pas, un provincial. Ben, au lieu de venir encombrer les rues de Paris, vous feriez mieux d'aller garder vos oies et vos veaux. »
« Tiens, s'écria Zazie, mais c'est Fédor Balanovitch. Vous avez pas vu mon tonton ?»«
Su son tonton, » dit la veuve Mouac en s'extrayant de la carlingue. « Ah mais c'est pas tout ça, dit Fédor Balanovitch. Faudrait voir, avoir, regardez ça, vous m'avez abîmé mon instrument de travail. »«
Vous étiez arrêté en deuxième position, dit le Sancti Montronnet. Ça se fait pas. »«
Ben commencez pas à discuter, dit Trouscaillon en descendant à son tour. Je vais arranger ça. »«
Ben c'est pas de jeu, dit Fédor Balanovitch. Vous étiez dans la voiture, vous allez être partial. »«
Eh bien, démerdez-vous, dit Trouscaillon, qui se tira anxieux de retrouver la veuve Mouac, laquelle avait disparu dans le sillage de la mouflette.
À la terrasse du café des Deux Palais, Gabriel, vidant sa cinquième grenadine, pérorait devant une assemblée dont l'attention semblait d'autant plus grande que la francophonie y était plus dispersée. Pourquoi, qu'il disait, pourquoi qu'on supporterait pas la vie du moment qu'il suffit d'un rien pour vous en priver. Un rien l'amène, un rien l'anime, un rien l'amine, un rien l'emmène. Sans ça, qui supporterait les coups du sort et les humiliations d'une belle carrière, les fraudes des épiciers, les tarifs des bouchers, l'eau des laitiers, l'énervement des parents, la fureur des professeurs, les gueulements des adjudants, la turpitude des nantis, les gémissements des anéantis, le silence des espaces infinis, l'odeur des choux-fleurs ou la passivité des chevaux de bois, si l'on ne savait que la mauvaise et proliférante conduite de quelques cellules infimes ou la trajectoire d'une balle tracée par un anonyme, involontaire, irresponsable, ne viendrait inopinément faire évaporer tous ses soucis dans le bleu du ciel.
Moi qui vous cause, j'ai bien souvent gambergé à ces problèmes. Tandis que vêtu d'un tutu, je montre à des caves de votre espèce mes cuisses naturellement assez poilues, il faut le dire, mais professionnellement épilées. Je dois ajouter que si vous en exprimez le désir, vous pouvez assister à ce spectacle dès ce soir.
Hurrah ! S'écrièrent les voyageurs de confiance.
Mais dis-moi, tonton, tu fais de plus en plus recette.
Ah ! Te voilà, toi, dit Gabriel, tranquillement. Eh bien, tu vois, je suis toujours en vie, et même en pleine prospérité.
Tu leur as montré la Sainte-Chapelle ?
Ben, ils ont eu du pot, c'était en train de fermer. On a juste eu le temps de faire un 100 mètres devant les vitraux. Comme ça, d'ailleurs, les vitraux, ils sont enchantés, eux. Pas vrai, my Christian lady ?
La touriste élue
acquiesça, ravi.
« Hourrah !» crièrent les autres. « Sus au guide-nappeur !» ajouta la veuve Mouac, suivie de près par Trouscaillon.
Le flicman s'approcha de Gabriel et, s'inclinant respectueusement devant lui, s'informa de l'état de sa santé. Gabriel répondit succinctement qu'elle était bonne. L'autre alors poursuivit son interrogatoire en abordant le problème de la liberté. Gabriel assura son interlocuteur de l'étendue de la sienne que de plus il jugeait à sa convenance. Certes, il ne niait pas qu'il y ait eu tout d'abord une atteinte non contestable à ses droits les plus imprescriptibles à cet égard, mais finalement, s'étant adapté à la situation, il l'avait transformée à tel point que ses ravisseurs étaient devenus ses esclaves et qu'il disposerait bientôt de leur libre arbitre à sa guise. Il ajouta pour conclure qu'il détestait que la police fourrât son nez dans ses affaires, et comme l'horreur que lui inspiraient de tels agissements n'était pas loin de lui donner la nausée, il sortit de sa poche un carré de soie de la couleur du lilas. Celui qui n'est pas blanc, mais imprégné de barbouze, le parfum de fjord, et s'en tamponna le tarin. Trouscaillon, empesté, s'excusa, salua Gabriel en se mettant au garde-à-vous, exécuta le demi-tour réglementaire, s'éloigna, disparut dans la foule, accompagné par la veuve Mouac qui le pourchasse au petit trot.
« Comment que tu l'as mouché ?» dit Zazie à Gabriel en se faisant une place à côté de lui. « Pour moi, ce sera une glace fraise chocolat. »«
Il me semble que j'ai déjà vu sa tête quelque part, » dit Gabriel.
« Maintenant que voilà la flicaille vidée, » dit Zazie, « tu vas peut-être me répondre. Es-tu homosexuel ou pas ?»«
Je te jure que non. » Et Gabriel étendit le bras en crachant par terre, ce qui choqua quelque peu les voyageurs. Il allait leur expliquer ce trait du folklore gaulois quand Zazie, le prévenant dans ses intentions didactiques, lui demanda pourquoi dans ce cas-là le type l'avait accusé d'en être un.
« Ah, oh, ça recommence !» gémit Gabriel.
Les voyageurs, comprenant vaguement, commençaient à trouver que ça n'était plus drôle du tout et se consultèrent à voix basse et dans leur idiome natif. Les uns étaient d'avis de jeter la fillette à la Seine, les autres de l'emballer dans un plaid et de la mettre en consigne dans une gare quelconque après l'avoir gavée de watts pour l'insonoriser. Si personne ne voulait sacrifier de couverture, une valise pourrait convenir, en tassant bien. Inquiet de ces conciliabules, Gabriel se décide à faire quelques concessions.
« Eh bien, dit-il, je t'expliquerai tout ce soir, mieux même tu verras de tes propres yeux. »«
Je verrai quoi ?»« Tu verras, c'est promis. » Zazie haussa les épaules.
« Oh, les promesses, moi !» Tu veux que je crache encore un coup par terre? Bah ça suffit, tu vas postillonner dans ma glace. Alors maintenant, fous-moi la paix, tu verras, c'est promis.
Bah qu'est-ce qu'elle verra, cette petite? Demanda Fédor Balanovitch, qui avait fini par régler son tamponnement avec le Sancti-Montronais, lequel d'ailleurs avait manifesté une forte envie de disparaître du coin. Il s'installa à son tour près de Gabriel, et les voyageurs lui firent respectueusement place.
« Je l'emmène ce soir au Mont-de-Piété, » répondit Gabriel, « et les autres aussi. »«
Minute !» dit Fédor Balanovitch. « Ça fait pas partie du programme. Moi, faut que je les couche de bonne heure, car ils doivent partir demain matin pour Gibraltar, aux anciens parapets. Tel est leur itinéraire. »
En tout cas, dit Gabriel, ça leur plaît.
« Ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend, » dit Fédor Balanovitch.
« Ce sera un souvenir pour eux, » dit Gabriel.
« Pour moi aussi, » dit Zazie, qui poursuivait méthodiquement des expériences sur les saveurs comparées de la fraise et du chocolat.
« Oui, mais, » dit Fédor Balanovitch, « qu'est-ce qui paiera au Mont-de-Piété ? Ils ne marcheront pas pour un supplément.
Ben, »« Je les ai bien en main, » dit Gabriel.
« À propos, lui dit Zazie, je crois que c'est en train de me revenir la question que je voulais te poser. »«
Eh bien, tu repasseras, » dit Fédor Balanovitch. « Laisse causer les hommes. »
Impressionnée, Zazie la boucla. Comme un loufia passait d'aventure, Fédor Balanovitch lui dit « Pour moi, ce sera un jus de bière. »«
Dans une tasse ou en boîte ?» demanda le garçon.
« Dans un cercueil, » répondit Fédor Balanovitch, qui fit signe au loufia qu'il pouvait disposer.
« Celle-là, elle est suprême, » se risqua dire Zazie. « Même le général Vermot aurait pas trouvé ça tout seul. »
Fédor Balanovitch ne porte aucune attention aux propos de la mouflette.
« Alors comme ça, » qu'il demande à Gabriel, « tu crois qu'on pourrait leur imposer une surcharge ?»«
Puisque je te dis que je les ai en main, faut en profiter. Tiens, par exemple, où tu les emmènes dîner ?»«
Ah, c'est qu'on les soigne. Ils ont droit au buisson d'argent. Mais c'est payé directement par l'agence.
Regarde. » Moi, je connais une brasserie boulevard Turbigo où ça coûtera infiniment moins cher.
Toi, tu vas voir le patron de ton resto de luxe et tu te fais rembourser quelque chose sur ce qu'il touchera de l'agence. C'est tout profit pour tout le monde. Et par-dessus le marché, là où je te les emmènerai, qu'est-ce qu'ils se régaleront pas ?
Naturellement, on payera avec le supplément qu'on va leur demander pour le monde piété.
Quant à la ristourne de l'autre resto, on se la partage.
« Ben, vous êtes des petits rusés tous les deux, » dit Zazie.
« Ça alors, » dit Gabriel, « c'est de la pure méchanceté. Moi, tout ce que je fais, c'est pour leur plaisir. »«
On pense qu'à ça, » dit Fédor Balanovitch, « qu'à ce qu'ils s'en aillent avec un souvenir inoubliable de Sturbe Inclite qu'on vocite par Wart,
afin qu'ils reviennent. »
« Eh bien, tout est pour le mieux, » dit Gabriel. « En attendant le dîner, ils expérimenteront le sous-sol de la brasserie. 15 billards, 20 pimpons, uniques à Paris.
Bah, »« Ce sera un souvenir pour eux, » dit Fédor Balanovitch.
« Pour moi aussi, » dit Zazie, « car pendant ce temps, j'irai me promener. »«
Pas sur le Sébasto, surtout, » dit Gabriel affolé.
« T'en fais pas, » dit Fédor Balanovitch. « Elle doit avoir de la défense. »
N'empêche que sa mère me l'a pas confié pour qu'elle traîne entre les Halles et le château d'eau.
Je ferai juste les 100 pas devant ta brasserie, dit Zazie conciliante.
Raison de plus pour qu'on croie que tu fais le tapin, s'exclama Gabriel épouvanté, surtout avec tes blue jeans. Il y en a des amateurs.
Il y a des amateurs de tout, dit Fédor Balanovitch, en homme qui connaît la vie.
Ben, « c'est pas gentil pour moi, ça, » dit Zazie en se tortillant.
« Si maintenant elle se met à faire du charme, » dit Gabriel, « on aura tout vu.
« Pourquoi ?» demanda Zazie.
« C'est un normo ?»«
Tu veux dire un normal ?» rectifia Fédor Balanovitch. « Suprême, celle-là, n'est-ce pas, tonton ?»
Et il tapa sur la cuisse de Gabriel qui se trémoussa. Les voyageurs les regardaient avec curiosité.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette suite du roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.